Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal+, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant...
Mai 1977, Newcastle, Angleterre. Le gamin qui court en short dehors alors qu'il fait moins 10 degrés, c'est moi. Été comme hiver, une seule tenue, le short. Caractéristiques physiques, mes grosses cuisses rouges. Surnom, Cornet Beef Legs. Je suis le deuxième enfant d'une fratrie de quatre. Ma famille est pauvre, mais joyeuse. Une famille normale du nord de l'Angleterre. Dans la vie, je n'ai qu'un seul passe-temps, le foot. Ah si, pardon, j'en ai un autre, les bonbons. Voilà, je passe mes journées avec un ballon au pied et un bonbon dans la bouche. Je commence à jouer régulièrement et les médias me présentent comme un surdoué. En trois saisons avec Newcastle, je marque plus de 25 buts et je remporte en 1988 le trophée du meilleur espoir de la saison. J'ai 21 ans et avec moi, Tottenham va retrouver un standing perdu. Je me suis jamais senti aussi épanoui. Je suis élu joueur de l'année par les supporters. Mieux, je suis sélectionné pour participer à la Coupe du Monde en Italie. Consécration totale. Pour accéder en finale, il faudra battre le finaliste de l'édition précédente, la RFA de Matthaus. Le match est tendu. Et si c'est l'Allemagne qui ouvre le score, Gary Lineker égalise à 10 minutes de la fin. Un partout à l'issue des 90 minutes. Les prolongations commencent, mais je suis complètement cuit. Je prends le ballon au milieu de terrain, je dribble un premier Allemand, puis un deuxième, mais je pousse trop loin ce putain de ballon et je tacle violemment. Je n'ai pas fait exprès, je me lève tout de suite pour m'excuser, je plaide coupable. Mais l'arbitre sort le carton jaune. Je sais ce que ça veut dire. Je serai suspendu quoi qu'il arrive en finale. J'avais déjà pris un carton jaune le match d'avant. Et là, alors que le match continue, je m'arrête. Je pleure. On ne sait même pas si on sera en finale, mais moi, j'ai perdu. On court autour de moi, mais je n'avance plus. J'ai basculé dans une autre dimension. Une dimension où le défenseur allemand Brehme vient me tacler les deux pieds en avant et où je me relève en lui serrant la main. Fin du match, c'est l'Allemagne qui l'emporte au tir au but. C'était presque écrit. Pas de Gascogne en finale. Pas d'Angleterre non plus. Mon retour sur le sol anglais me fait prendre conscience de la valeur de nos exploits. On ne parle que de mes pleurs, de mon style. Paul Gascogne est une putain de star. Cette surexposition provoque chez moi une hyperactivité et un malaise ambiant que je ne parviens pas à maîtriser. Une veille de match de coupe contre Portsmouth, impossible de dormir. Je déambule dans l'hôtel sans but, à marcher dans des couloirs infinis. Et là, au sous-sol, un cours de squash. Il est minuit passé et je cours réveiller mon coéquipier John Monker pour aller jouer. Je ne lui laisse pas tellement le choix d'ailleurs. On se fait 15 matchs jusqu'à 3h du matin. J'en peux plus. J'ai tellement mal aux jambes que je les plonge dans un bain glacé. Mais là, c'est pire, elles deviennent rouges écarlates. J'ai l'impression qu'on me lacère les jambes avec un couteau. Je ne peux même plus les poser à terre. Je ne dors pas de la nuit. Le lendemain, je boite complètement et j'ai les jambes encore rougies de la veille. Pour ne pas me faire remarquer, je remonte mes chaussettes le plus haut possible et j'enfile des protections supplémentaires. On dirait carrément un joueur de hockey. Ma première mi-temps est catastrophique. On perd 1-0 et je ne cours même pas droit. À la mi-temps, Terry Venables, le coach, veut me sortir. Alors j'enlève tout, mes protections. Je baisse mes chaussettes et je remonte mon short. 45 minutes plus tard, Tottenham s'impose 2-1, doublé de Paul Gascogne. Un mois plus tard, contre Arsenal en demi-finale. Coup franc pour nous, on est à 40 mètres des buts. Ce jour-là, à Highbury, j'inscris le but de ma vie. Je n'ai jamais aussi bien joué. À quelques jours de la finale contre Nottingham Forest, j'ai pris une décision importante. Celle de signer en Italie à la Lazio de Rome. Dès la fin de saison, je rejoindrai le club romain pour 8,5 millions de livres. Ce match contre Nottingham sera mon apothéose. C'est écrit. Ce qui est écrit aussi, c'est mon anxiété. Mes tocs qui se subliment quand on leur donne de si belles occasions. La veille du match, seul dans ma chambre d'hôtel, C'est l'asphyxie. Je donne des coups de pied dans la lampe pour me défouler. Le médecin du club intervient, on me prescrit du Valium. La nuit tombe. Été 92, Italie. Un an d'inactivité n'a pas altéré ma popularité dans la capitale romaine. Mon arrivée à la Lazio est de loin le transfert de l'année. Dino Zoff, l'ancien gardien international, est mon nouvel entraîneur. Et il trouve tout de suite les mots justes en me glissant que si je joue bien, je peux boire autant de bière que je veux. Grave erreur. Grave erreur parce que si je n'ai pas encore retrouvé complètement mon niveau, je peux largement faire illusion le temps d'un match. Derby contre la Roma, l'autre club de Rome. 11e journée, 74 000 spectateurs, le match de l'année. 87e minute, nous sommes menés 1-0. Coup franc de Signori à 40 mètres du but. Peu importe ce qu'il adviendra, j'ai marqué contre la Roma. Gaza est une star, je pourrais presque m'arrêter là. La Lazio termine la saison 5e. Je distribue mon talent épisodiquement, c'est déjà bien suffisant. Un an plus tard, l'entraîneur Dino Zoff est devenu président du club. Arrive alors un entraîneur tchèque, Zdeněk Zeman. C'est, paraît-il, le renouveau du football offensif. Autant dire que pour moi, attaquant, ça me convient parfaitement. Alors que nous sommes en Suisse pour un stage de pré-saison, Zeman vient me voir. La discussion est assez courte. Je suis trop gros, selon lui. Il m'appelle carrément Fati. Et si je pense une seule seconde jouer avec les pros, je me trompe lourdement. Je suis juste invité à faire du vélo pour perdre du poids. Zdeněk Zeman est un gros con. Et son vélo, il peut se le foutre là où je pense. La suite de l'histoire est déjà écrite. Je ne jouerai jamais tant que ce type sera à la tête de l'équipe. Je me rends alors dans le bureau du président et demande à partir. Du coup, je rencontre Glenn Hoddle, l'entraîneur de Chelsea. Un déjeuner pour se convaincre mutuellement. Mais là, problème. À peine installé, je perds une dent en entamant mon sandwich. Je déconnecte. Il faut que je retrouve cette putain de dent. Je prends le sandwich, je le retourne, je demande à la serveuse. Pour être tout à fait précis, c'est une dent pivot que m'a installé mon dentiste. Ça me fait déjà horriblement mal. Si en plus je m'assois sur le prix que ça m'a coûté. Mais rien n'y fait, impossible de retrouver cette putain de dent. Elle a disparu. Je m'enlève. La chaise face à moi est vide. Glenn Hoddle est parti depuis bien longtemps. Nous sommes en mai 95 et quelques semaines plus tard, je rejoins le club écossais pour plus de 4 millions de livres. Plus gros transfert de l'histoire du club. Gaza is back. 42 matchs, 19 buts pour ma première saison. On me pensait perdu ? Je n'ai jamais été aussi vivant. Il y a dans cette ville, dans ce club, une atmosphère, une odeur enivrante qui me rappelle celle de Newcastle à mes débuts. En 1996, je déclare dans une interview que le club nous incite à boire pour forger un esprit d'équipe, qu'on nous réunit régulièrement pour qu'on se détende ensemble. C'est surtout moi qui me détends tout seul. L'alcool fait partie de ma vie. Il a toujours été là, mais au fil du temps, il détruit tout. Avant un match de championnat, je m'isole dans les loges. C'est une maladie. C'est plus fort que moi. Je descends une bouteille de whisky sous les yeux d'un serveur. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Jusqu'au jour où je tape ma femme. Première cure de désintox. L'Écosse, je les connais tous. Je sais ce qu'ils valent. On va leur rouler dessus. C'est le but d'une vie. À Wembley, chez moi, devant 76 000 spectateurs, j'ai marqué le plus beau but de ma carrière. Contrôle, coup du sombrero et reprise de volée pied gauche. Je ne vis que pour ça, que pour ce moment précis. Ces 5 secondes qui font basculer mon corps dans un état second. Le lendemain, le Daily Mirror écrit « Monsieur Paul Gascogne, nos excuses ». Si vous avez pu être décrit comme un imbécile, gras, alcoolisé et grossier, vous êtes en réalité un magicien du football. Derrière cette victoire contre l'Écosse, la machine est lancée. La demi-finale nous place face à l'Allemagne. L'Allemagne, encore et toujours. La revanche de 1990. Cette fois, ce sera chez nous. Cette fois, ce sera la victoire. 26 juin, 21h, Wembley. Demi-finale contre l'Allemagne. Personne n'a oublié 1990. C'est l'heure de la revanche, de la mise à mort. Je cours comme je n'ai jamais couru de ma vie. Je ne laisse pas une once de répit à mes adversaires. Le milieu de terrain du Bayern Munich, Thomas Helmer, me suit comme une ombre. J'attends tranquillement qu'il ait la balle, et là, je le découpe. L'arbitre ne bronche pas, mon match est lancé. À la fin du temps réglementaire, nous sommes à égalité. J'ai le même sentiment qu'il y a 6 ans. Cette équipe d'Allemagne ne baisse jamais la tête. Helmer, que je n'ai pas arrêté de tabasser pendant 90 minutes, se relève toujours. C'est un cauchemar. Et pourtant, 99e minute. À cet instant précis, celui qui marque est qualifié. C'est la règle du but en or. Teddy Sheringham écarte à droite pour Schürrle. Dans la surface, il y a moi, tout seul. Je cours vers la balle, le gardien allemand est battu. Le but est vide. Je l'ai raté. Je n'avais qu'à toucher ce putain de ballon et c'était terminé. Mais non, il s'est évaporé sous mes yeux. Je n'étais pas en retard, j'étais là, j'étais devant lui. C'était fini, le match était terminé. L'Allemagne s'imposera au pénalty, elle sera en finale et comme il y a 6 ans, elle soulèvera le trophée. J'ai 29 ans. Les observateurs du foot vous diront qu'il me reste encore de belles années devant moi. En réalité, c'est fini. La suite ne m'appartient plus. Elle ne fait plus partie du foot. Je suis fier de ce que j'ai accompli sur un terrain. Le reste...
Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne.